Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi en direct. Alors ce matin, Julia, quelle sera notre grande thématique du jour ?
Eh bien, on va aborder un sujet assez intime et même assez mal vu. On va s'intéresser à l'infidélité. On peut évidemment tous avoir des visions différentes sur la question. À partir de quand est-ce réellement trompé, par exemple ? Est-ce que c'est toujours la fin d'une relation ? Quand l'un ou l'autre a dérapé ? On va détailler tout ça avec notre invitée Caroline Leroux. Elle est psychologue et sexologue. Et puis, nous aurons également plusieurs témoignages dans l'émission pour illustrer tout cela.
Ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour notre partie tendance. Avec notre équipe de chroniqueurs, il y aura d'abord Sophie Braffman, notre spécialiste mode. Aujourd'hui, elle va nous donner des pistes pour se vêtir de la tête aux pieds en version green écolo. Et oui, on peut être stylé sans céder aux sirènes de la mode jetable. Et enfin, c'est Nathalie Le Breton qui prendra le micro comme tous les mercredis pour sa chronique lecture jeunesse. Ce matin, elle a choisi de nous présenter des livres qui évoquent le thème des grosses colères, des bouquins très utiles pour les familles concernées. Et il y en a pas mal, je sais de quoi je parle. Voilà, bien fait pour vous. C'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good sur Europe 1. Eh bien, notre question du jour ce mercredi, dans un couple, à partir de quand peut-on parler d'infidélité ?
Eh oui, parce que les curseurs sont parfois différents d'un individu à l'autre. Alors on va prendre le temps aujourd'hui d'analyser les choses en détail. Que recherche un homme lorsqu'il va voir ailleurs ? Pourquoi une femme ressent-elle un beau jour le besoin d'être dans les bras d'un autre ? Et puis que se passe-t-il après ? Comment l'amour peut-il survivre quand la confiance a été ébranlée ? On va en parler sans tabou avec notre invité dans quelques toutes petites minutes. Mais tout d'abord, on va écouter notre fidèle Tintin reporter, notre cher Clément Lanoux. Bonjour Clément !
Bonjour tout le monde ! Effectivement, un sujet pas simple à aborder dans la rue en croisant des Français, puisque si on demande à chacun, je suis la personne la plus fidèle du monde, évidemment. Oui. Alors comment réagissez-vous, comment réagiriez-vous si toutefois vous appreniez que vous étiez trompé ?
C'est terminé, il veut faire sa vie ailleurs et sans moi surtout, et ce sera surtout sans regret.
Bon, bah d'abord c'est ma fierté qui en prend un coup, et après, par la force des choses, je me dis que si elle l'a fait, c'est qu'il devait y avoir une raison, donc on avise et puis voilà.
Vous voyez Hulk ? Et ben en fait, Hulk, c'est un peu moi si je découvre que la personne elle est en train de me tromper. Genre, je rentre chez moi, je le trouve, bam, Hulk, et je le fous dehors, et ses affaires, elles finissent par-dessus la tête. Par contre, si on me le dit que la personne ne sait pas que je sais, là, je vais être plus vicieuse. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à un plan d'attaque et tout pour bien la coincer, et après, je la fous dehors.
Voilà le
si
sens
je sais
du,
pas que je
du
sais
pardon.
Qui sait que je sais que nous savons.
Là, c'est toujours plus compliqué. Hein. En tout cas, on sent juste à la voix qu'il y a du vécu derrière. C'est pas juste une projection. Alors justement, je vous rassure, il y a des personnes beaucoup plus mesurées face à l'infidélité.
Écoutez, moi, je pense que chacun peut avoir son petit jardin secret et qu'on n'est pas obligé de tout savoir. Moi, tant que je le sais pas. Je considère pas ça comme de l'infidélité.
Alors justement,
elle est cool,
mais il y a un grand débat. Où commence l'infidélité ? Où commence la tromperie ? La personne n'est d'accord.
Dès le mangeage de bouche, dès le bisou sur la bouche, je pense. Ouais.
Pour moi, c'est le bisou. Voilà. Ouais. À partir de là, pour moi, il y a faute grave, carton rouge. Pour moi, c'est terminé.
On vit quand même à l'ère d'Instagram, donc je pense qu'à partir du moment où on envoie un DM à une personne, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou n'importe quel autre réseau social, c'est une tromperie en fait, parce qu'on n'est pas supposé parler à d'autres personnes que... parler à d'autres personnes, mais il y a un ton à avoir. Si le ton il est dans la séduction, c'est mort. On peut pas juste flirter, c'est pas possible.
Pour moi, c'est tromper à partir du moment où il regarde insistement une autre fille.
Il
y a de tout. Hein.
Ah, il y a des traits jaloux et tout.
Moi, je valide le mangeage de bouche, ça c'est interdit. Ouais. Hein.
Mais il y en a beaucoup qui m'ont sorti ça, justement, le fait d'envoyer des messages, c'est déjà joué. Est-ce que c'est pas commencer à chercher quelque chose ? Bon, la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui, parce qu'on va essayer d'avancer avec tout ça, que les couples puissent vivre bien après une tromperie peut-être, faut-il pardonner ?
Ah non, parce que si la personne, on la pardonne, elle va recommencer. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle va pas recommencer ? Non, vaut mieux prévenir que guérir, comme dit ma grand-mère.
Et ça, c'est à peu près la réponse que j'ai eue tout le temps. C'est dur. Vous allez peut-être nous apprendre tout à l'heure, mais c'est dur de pardonner. Mais justement, la personne qui en parle comme ça, est-ce qu'elle est en couple, elle ?
Non. Mais j'ai beaucoup été l'autre personne, du coup. je connais, moi, dans l'autre sens. Voilà. Moi, je découvre que la personne, elle est en couple, après, en général. C'est fantastique.
Et les personnes souvent les plus jalouses sont celles qui sont les plus infidèles. C'est ce que j'ai appris en faisant ce petit micro-trottoir.
Eh bien, merci beaucoup, Clément. On va maintenant s'attaquer à ce sujet intime et presque solennel, l'infidélité. On va en parler avec vous, Caroline Leroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et sexologue. Je signale aussi votre dernier livre sur un autre sujet quoique, hein, la vérité sur le sexe après bébé aux éditions Larousse, parce que l'après bébé, ça peut parfois être un moment où justement la question d'infidélité peut émerger. Bref, on va commencer déjà par définir les choses et poser le cadre. Ça veut dire quoi, tromper son ou sa partenaire?
Ben justement, comme on a vu, on a écouté avec le micro-trottoir, il y a plusieurs modalités. Donc avant, c'était uniquement les rapports sexuels, et d'ailleurs, c'était condamné au pénal. Jusqu'en 65, oui, c'était 2 ans d'emprisonnement.
Donc, et pour l'homme et la femme?
Oui, c'était une faute. Après, là maintenant, si on est marié et qu'on est infidèle et qu'on a eu des relations sexuelles en dehors du mariage avec son mari
ou sa femme...
On va pas
en prison quand même.
Non, maintenant c'est du civil, heureusement. C'est juste une violation, juste du devoir matrimonial. Donc vous voyez, il n'y a plus de droit, c'est un devoir.
Donc la faute pour tromperie, ça existe encore, ça?
Ça existe, mais c'est juste du civil. D'accord. Donc bon, on ne craint pas grand-chose, voilà, c'est comme ça. Donc, est-ce que c'est juste les rapports sexuels ou est-ce que ça peut aller, comme ils disent, embrasser quelqu'un, envoyer des SMS?
Moi, je dirais regarder une autre femme ou un autre homme?
Exactement, il y a plusieurs choses. Il y a le côté physique, il y a le côté, moi, ce que j'appelle comportemental, donc les SMS, être sur des sites de rencontres sans rien faire, et puis il y a le côté aussi psychique. Si on pense à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est trompé?
Ben moi, je trouve que oui. Hein. On n'a pas tous la même définition, effectivement, parce que pour certains, il faut donc avoir une relation sexuelle avec un autre, tandis que pour d'autres, ben, le simple fait d'échanger des textos, de penser à quelqu'un, c'est déjà une tromperie. Donc, on peut tromper en pensée, réellement?
Ah oui, oui. Bah oui. Si jamais, imaginons, on est amoureux de quelqu'un d'autre, ça peut être une tromperie pour cette personne-là.
Un rêve érotique, ça compte pas?
Non. Oh ben non, heureusement.
Moi, j'en ai fait un avec Brad Pitt.
Mais oui, non, mais là, c'est notre petit jardin secret, c'est très bien.
Ah ben voilà, ça l'est plus maintenant. Alors, comment vous expliquez que pour certaines personnes, un simple geste affectueux comme tenir la main ou une caresse, c'est pire que de surprendre son partenaire au lit avec une autre personne?
Ah, alors, la jalousie, déjà les jaloux maladifs, mais c'est aussi une perte d'estime de soi. C'est-à-dire que déjà, quand on a très peu confiance en soi, si son partenaire fait quelque chose comme ça, ça nous met dedans et donc forcément on dit il nous a trompés. Voilà, là c'est vraiment propre à chacun.
Caroline, de façon pragmatique, est-ce qu'on sait combien de Français sont infidèles? Est-ce qu'il y a déjà eu des études sur ce sujet?
Oh oui, il y en a plein. Alors ça varie. Il faut toujours faire attention aux études et aux chiffres, hein,
puisque surtout, les gens peuvent mentir aussi.
Exactement, hein, surtout sur ce sujet-là. Là, j'ai pu regarder, c'est entre 30 et 40% pour les femmes et à peu près presque 50% pour les hommes. C'est énorme. Donc la tendance, là, c'est pas qu'elle s'inverse, c'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus infidèles depuis 20 ans. Les hommes, ça reste à peu près stable.
On rejoint les hommes surtout, quoi, sur la consommation d'alcool, sur la cigarette, sur la fidélité.
Ça veut dire qu'une personne sur deux, quasiment, quel que soit le sexe...
Oui. C'est les études en tout cas. Oui, entre 30 et 40 %, c'est énorme.
Excusez-moi, mais de vous dire que si c'est des études, la réalité doit être supérieure.
Exactement.
Mais c'est incroyable. Et donc, pas plus d'hommes, si, un petit peu plus d'hommes quand même que de femmes. En termes de CSP, est-ce qu'on, de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas d'études particulières?
Si, ça a été... Non, enfin, j'en ai trouvé. C'est plus les catégories hautes, moyennes hautes. Parce que finalement, le regard de la société là-dessus, ça leur importe peu.
Oh là là, bon.
Et plus au niveau des villes aussi, puisque c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres, des choses. Voilà.
Ouais, au niveau rural, tout le monde se connaît. On est plus anonyme dans la ville que dans le village, effectivement. Alors, on a fait une émission la semaine dernière sur les opposés s'attirent, ou est-ce que qui se ressemble s'assemble. Est-ce qu'on sait, Caroline, si quand on cherche à tromper son partenaire et qu'on le fait éventuellement, est-ce qu'on le fait avec quelqu'un qui ressemble au partenaire du couple officiel ou avec quelqu'un qui lui est totalement opposé?
Généralement, c'est quelqu'un qui est opposé. Généralement, dans la grande majorité des cas, c'est ça. Mais après, comme c'est quelque chose quand même de très intime et de très personnel, ça dépend toujours de l'histoire du couple.
Parce que vous pensez que quand on trompe avec quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à son conjoint, quelque part, on le trompe moins?
Non.
D'accord.
Ah ben non, une tromperie reste une tromperie de toute façon, puisqu'après, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Donc il va falloir renouer avec tout ça.
Et on va en parler. Merci Caroline, vous restez avec nous. On va continuer donc à s'intéresser au secret de l'infidélité. Qu'elle soit féminine ou masculine, bien souvent revient en tout cas ce petit goût d'humiliation et de trahison quand on aborde ce sujet. Néanmoins, que l'on soit le coupable ou la victime dans cette affaire, tout le monde n'a pas la même sensibilité face à la fidélité. Et on tentera de comprendre pourquoi ce matin. En attendant, Julia et moi, on est un petit peu jalouses, donc restez bien fidèles à Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Dans un couple, à partir de quand peut-on parler d'infidélité? On fait le point avec Caroline Leroux en studio avec nous. Caroline, je vous représente. Vous êtes psychologue et sexologue. Et on va commencer par voir ce qui pousse certains hommes et certaines femmes à aller voir ailleurs. Est-ce que ça veut dire que forcément, quelque chose ne va pas dans la relation dite officielle?
Alors oui, généralement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va dysfonctionner. Mais ça peut être aussi le fait quand on va voir ailleurs, bah, on a l'impression de... On a envie de séduire, on casse un peu la routine et on verra hein, que ça peut être bénéfique aussi pour le couple. Mm-hmm. Mais généralement, vous voyez, moi, quand j'ai des patients où il y a tromperie, je leur dis toujours c'est du 50-50. C'est pas forcément toute la faute à celui qui t'a trompé. Mm-hmm. C'est qu'il y a quelque chose qui va dysfonctionner. Ça peut être même pas forcément dans les rapports sexuels, même dans le quotidien. On en a un peu marre, on nous regarde pas comme il faut, ou on se sent un peu dévalorisé. On va aller chercher vers l'autre personne ce qui va nous manquer à ce moment-là.
Mais c'est comme vous dites, c'est 50-50. Il y a aussi 50, c'est de la faute de celui qui y va quand même.
Oui, mais ça, c'est difficile à entendre. Hein.
Ah ouais.
Quand on se fait tromper et qu'on dit finalement vous y êtes pour quelque chose, c'est dur parce qu'il y a l'humiliation aussi.
Bien sûr. Alors, certaines personnes sont infidèles alors qu'elles aiment profondément aussi leur partenaire, ça arrive ça. Alors, qu'est-ce qui les motive, ceux-là qui vont voir ailleurs, alors que a priori ils sont très attachés à l'autre?
Eh ben oui, mais ça va être plus une question de soit de séduction ou pour les femmes, et ça c'est vraiment très fréquent, c'est retrouver leur corps de femme, leur féminité à travers un autre homme.
Donc c'est plus féminin finalement.
Là un petit peu plus, oui. Mmh. Les sentiments sont plus du côté des femmes.
Alors on a justement en ligne avec nous Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors vous avez accepté de partager avec nous votre expérience de vie ce matin dans Bienfait pour vous. Alors racontez-nous, vous êtes en couple avec un homme, je crois, et je crois que vous vous autorisez certaines libertés.
Absolument. Ça fait 8 ans que mon compagnon et moi sommes ensemble. 8 ans, on a traversé un certain nombre de choses, de l'amour, du désir, et puis après les habitudes se sont installées et... au fur et à mesure, peut-être que l'appétit sexuel s'est un peu délité. Et du coup, on a décidé de, pourquoi pas, tenter une expérience chacun dans notre coin. Alors, ce n'est pas exactement chacun dans notre coin. Au départ, c'était plutôt tous les deux ensemble, à trois. Et puis, ça s'est terminé par chacun dans notre coin. Et c'est quelque chose qui a finalement été acté.
D'accord. Alors justement, où est-ce qu'elle se situe finalement, l'infidélité et donc la fidélité dans votre couple? Je crois qu'il y a quand même, des règles. Il y a une histoire notamment avec, je crois, un serveur qui ne vous a pas plu du tout avec votre conjoint il n'y a pas si longtemps.
Vous avez complètement raison. On s'était donné pour consigne de systématiquement rentrer à la maison le soir et que, par définition, si on voulait aller voir ailleurs, voilà, l'essentiel, c'était d'avoir une transparence et que l'acte sexuel en lui-même n'était pas vraiment gênant. Et puis, l'été dernier, nous sommes partis en vacances. Et un soir, mon conjoint et moi avons été au restaurant. Un petit serveur tout mignon, tout sympathique, nous servait. On lui a fait transmettre un petit papier et puis on l'avait invité à la maison. Il est passé boire un coup. On l'a revu et puis mon conjoint a commencé à coucher avec lui, ce qui ne me dérangeait pas fondamentalement. En revanche, à un moment donné, il y a une frontière qui a été franchie, à savoir des échanges de textos permanents, une hyper-protection de son téléphone. Et je sentais il y avait une frontière infranchissable qui avait été franchie à partir de ce moment-là, où c'est quelque chose qui m'a complètement déplu et que j'ai considéré comme étant une tromperie, qui m'a fait beaucoup plus mal finalement que les actes sexuels répétés sans lendemain finalement.
Bon, néanmoins, vous avez pardonné cet écart, on va dire. J'ai l'impression que vous vous sentez amoureux, ça, il n'y a pas de doute, ça, on le sent très bien, et fidèle en fait. Hein.
Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est là où c'est intéressant, cette ouverture qu'on a mise en place, c'est que le fait de le savoir au début et de pouvoir le faire nous a permis de repimenter un peu notre vie sexuelle. Et puis, chemin faisant, en sachant qu'on avait le droit de le faire, on s'est rendu compte que finalement, on ne le faisait pas si souvent que ça. Et ça nous a conduit à nous re-rapprocher. J'invente un mot,
mais un
logisme.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Antoine pour votre témoignage et bonne continuation.
Je vous en prie, merci à vous.
Vous en pensez quoi, Caroline? Pourquoi certaines personnes arrivent à créer une barrière entre le sexe et l'amour? Parce que ça paraît indissociable parfois.
Non, justement, ça ne l'est pas. Et là, on le voit bien avec ce témoignage. Alors, il faut savoir aussi que chez les gays, c'est quelque chose qui est plutôt bien accepté parce que c'est codifié, comme l'a dit Antoine. Mmh. Donc là, ça pose aucun souci. Mais c'est pareil chez les hétérosexuels. Si jamais on se dit, bah, pour pimenter, qu'on le fasse à trois ou même on peut aller voir ailleurs, à partir du moment où les deux partenaires sont d'accord,
c'est pas de l'infidélité.
Pas de tromperie. Ben non.
D'accord. Le code de fidélité est bien clair, en fait. C'est
exactement.
Ça qui est important,
voilà.
Finalement, dans ce truc-là.
Donc, on va mettre, effectivement, tout ce qui est code et compagnie. Hein.
On a Mathieu sur Instagram qui nous pose une question. C'est un sujet qui fait réagir. Hein. Est-ce que regarder un porno, c'est tromper ? Il dit, ma copine m'a fait une crise de jalousie l'autre jour quand elle l'a découvert que j'en avais regardé un. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, alors là, bon, je pense que Mathieu est assez jeune et c'est la nouvelle génération. Non, regarder un porno, c'est un support de masturbation. Ça pose la question de la masturbation qui est essentielle dans notre vie d'humain puisqu'on a deux vies sexuelles. Une vie sexuelle en couple et l'autre vie sexuelle seule. Donc c'est normal qu'ils regardent des pornos que tous les hommes peuvent regarder.
Mais c'est pas de la tromperie.
Aucune tromperie, bien sûr que non. Là, c'est on se masturbe. Il faut bien qu'on ait un support.
Donc là, c'est la jalousie. Enfin, c'est quoi le problème ?
Là, c'est de la jalousie de cette jeune fille, sûrement, parce que je pense qu'ils sont jeunes. Mais il faut savoir que quand on se masturbe, on pense rarement à son partenaire parce qu'on habite avec. Donc forcément, son potentiel excitant, il est un peu moins.
On l'a en chair et en os, et puis la tête, après,
on va penser à autre chose.
Autant en profiter, hein, si ce n'est pas trompé en plus. Alors, je rappelle que vous pouvez réagir et donner votre avis dans cette émission. C'est au 39-21, le répondeur d'Europe 1. Et nous avons justement Julie qui est en ligne avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Julie, vous étiez en couple pendant un an et demi avec donc, votre ex-petit copain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble ? Je crois qu'il y a un problème d'infidélité, hein.
Oui, c'est ça. Bah, au bout de 3 mois, moi, je l'ai trompé. Et du coup, un an après, donc au bout d'un an et demi, je me suis levée un matin et j'ai arrêté avec les deux.
Ah, carrément. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à le tromper ? Ça n'allait plus dans votre vie de couple ou c'était juste que pour pimenter un peu votre vie ?
Bah, c'était surtout pour pimenter. Je m'ennuyais, en fait, dans ma vie de couple. Et du coup, bah, je cherchais un peu de piment et voir autre chose.
Mais pourquoi vous avez attendu un an et demi pour quitter votre copain officiel, on va dire, pour que, alors que la relation a apparemment été platonique dès le début, c'était pas plus simple de le quitter puis de vous mettre, pourquoi pas, en couple avec votre amant ?
Bah, déjà, j'étais malgré tout attachée à lui. Puis j'avais un grand manque de courage, hein, évidemment, pour pas le quitter. Et au fond, j'étais heureuse malgré tout dans cette relation puisque bah, j'avais une relation qui se complétait. Mmh. D'un côté, j'avais le piment, de l'autre, j'avais la relation sérieuse. Et puis, je savais très bien qu'avec l'amant, j'avais pas d'avenir. On n'avait pas du tout les mêmes projets de vie, les mêmes lignes de vie. Donc voilà, je me suis contentée de ça.
Et par exemple, avec vos précédents petits copains, c'était la même chose ? Est-ce que vous les aviez trompés ?
Non, c'était la première fois. Et depuis, j'ai refait ma vie. Et puis, j'ai jamais eu d'autre écart.
D'accord. Mmh. Et c'était difficile à gérer au quotidien ?
Non. Étonnamment, non, en fait, parce que entre les réseaux sociaux et puis le fait qu'on ne vivait pas encore ensemble, ça, j'avais aucun problème à gérer ça.
Ah oui, parce que moi, j'aurais pensé qu'avec les réseaux sociaux, c'était justement un moyen de se faire gauler plus facilement, non ?
Bah, étonnamment, non.
Ah ouais ? Bon. Et en termes d'organisation, comment vous faisiez ?
Bah, j'avais deux comptes Snapchat et on parlait du coup sur l'autre compte.
On est trop vieille, Mélanie, pour faire ça. Merci beaucoup, Julie, pour votre témoignage, en tout cas. Caroline, l'infidélité de Julie, est-ce qu'elle dit des choses, je ne sais pas, de l'infidélité au féminin au sens large ou pas ? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir entendu ce témoignage ?
Bah, non, pas forcément, parce que là, on est vraiment en double relation. Apparemment, c'était plus platonique avec son petit copain officiel. Ils n'habitaient pas ensemble, il n'y a pas la routine. Et je pense que c'est quelqu'un encore qui était assez jeune à cette époque-là. Donc non, on ne peut pas dire que ça reflète vraiment l'infidélité dans le mode féminin.
Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont totalement infidèle, tout le temps infidèle.
Oui. Alors, c'est ce qu'on disait avant, infidèle un jour, infidèle toujours. Après, on peut se repentir, et puis il suffit qu'on trouve le grand amour et dire, bah, finalement, on est comblé de tout, pourquoi aller voir ailleurs ?
C'est ce qu'a dit Julie, son nouveau petit ami, il n'y a pas de problème d'infidélité. Mais dans votre cabinet, vous voyez des infidèles compulsifs, ce soit des hommes, chroniques, que ce soit des hommes ou des femmes ?
Oui, et c'est très compliqué. Alors, ce n'est pas une addiction du tout à l'infidélité, mais c'est compliqué quand ils vous disent... Malheureusement, j'ai plus des hommes là-dessus, qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mmh. Alors souvent, on voit, quand je vois leurs partenaires, elles sont très peu sexuelles. C'est des hommes qui sont assez demandeurs de sexe et ils le disent très bien. Moi, je dissocie, hein. J'aime ma femme, mais pour trouver quelque chose de plus charnel, Je vais aller voir ailleurs. Mais ce n'est pas des doubles relations, parce qu'ils vont changer de partenaire.
Ouais, régulièrement. Mmh. Et oui. On a une dernière question qu'on va prendre là tout de suite de Sonia sur Facebook. Elle dit, si un jour je devais être trompée, je préférais qu'il me trompe avec un garçon plutôt qu'avec une fille. Caroline, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Bah oui, et c'est pareil pour un homme. C'est-à-dire que là, si elle est trompée par un homme, enfin avec un homme, pardon, elle ne va pas être mise en compétition.
Vous ne pouvez rien y faire. Vas-y.
Non, parce que là, ben moi, c'est des choses que je ne peux pas apporter. Et surtout, on va se comparer à l'autre femme. Là, il n'y a pas de comparaison, c'est un homme.
Non, mais on peut peut-être regretter de pas avoir vu qu'on n'attirait pas tant que ça son mec, non ?
Non, pas forcément. Non, si ça peut être soit une homosexualité refoulée, mm-hmm. Non. Franchement, là, ils peuvent rien.
Une bisexualité.
Ah oui, ça tombe dessus, mais c'est pour ça. C'est exactement la même chose chez les hommes.
Ça nous met moins en danger, finalement. Oui. Parce que, voilà. Merci Caroline, on va encore continuer de tenter de comprendre ce qui fait l'infidélité. Pourquoi elle frappe à la porte de certains couples parfois? Et surtout, on va essayer de voir justement, après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Faut-il toujours avouer, même quand il s'agit d'un écart d'un soir, au risque de briser une relation heureuse? Et puis, quand on est la victime, est-il réellement possible de pardonner? Est-ce que ça peut valoir le coup, d'ailleurs? On y revient dans le détail dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin, on s'intéresse au sujet de l'infidélité. Pourquoi trompe-t-on un homme ou une femme? Et pour en parler, Caroline Leroux est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue. Alors, on parle bien souvent d'un tabou quand on parle de l'infidélité. Est-ce qu'il faut toujours être transparent? Alors, Caroline, imaginons, moi, j'ai trompé mon mari une fois, une soirée arrosée lors d'un voyage de travail. Je ne reverrai jamais la personne. Est-ce qu'il faut le dire à tout prix? Parce que potentiellement, je prends le risque que mon couple explose, alors que ça peut ne jamais se savoir.
C'est une question hyper difficile que vous me posez là, parce que là, ça va être soit c'est la morale, c'est les valeurs qu'on peut avoir. Donc clairement, je dirais, et ça m'est arrivé en consultation, soit est-ce que vous êtes sûr de vous et ça va jamais arriver, et ça, c'est en fonction aussi de l'autre partenaire. Comment
dire, ça
il
va
risque
jamais
de prendre
savoir.
Oui, mais là, c'est une question, est-ce qu'on garde ça pour nous, en sachant que c'est quand même au niveau de la confiance.
Certains peuvent être rongés par la culpabilité et se déchargent de ça aussi.
Mais
est-ce que c'est une bonne idée?
Et si on s'en décharge et justement que le couple vole en éclat, là, je pense que chacun doit se poser la question, on connaît son partenaire, qu'est-ce qu'on en fait, ça? Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Tout est une question de moralité.
On avait tout à l'heure chez Clément Lanoux, dans le reportage, quelqu'un qui disait, moi je préfère, tant que je le sais pas, il n'y a pas tromperie. Oui. Donc il y a des gens qui ont même pas envie de le savoir.
Non.
Quand on vous envoie ça dans la figure et qu'on voulait pas le savoir...
Et surtout, quand c'est juste là, à une soirée, et puis qu'on sait que c'est juste du sexe, à la limite, bon...
Vous préconisez, malgré tout, de la fermer.
Elle l'a pas dit comme ça. Non, je l'ai pas dit. Non, je peux pas donner... Voilà. C'est à chacun de voir. Trop compliqué comme question, là.
Est-ce qu'on tolère davantage la non-exclusivité sexuelle aujourd'hui, Caroline, par rapport à, il y a quelques années? Parce qu'avant, c'était juste très caché. Est-ce que là, avec les mœurs qui changent, le monde qui s'ouvre, les réseaux sociaux, on est un petit peu moins précautionneux pour cacher nos infidélités?
Oui, on l'est moins. D'ailleurs, ça se voit même dans le code pénal, vous voyez, puisque jusqu'en 65-75, je ne me souviens plus, c'était vraiment un délit pénal. Là, ça ne l'est plus. Maintenant, avec tous les réseaux, les machins, effectivement, ça se démocratise beaucoup plus. Mais avant, ça devait être aussi peut-être très caché. On n'en sait rien, on n'avait pas les études.
Et pourquoi dans la majorité des cas, ça nous fait tant de peine de savoir qu'on a été trompé? Parfois même juste de pouvoir l'imaginer, ça nous angoisse.
Parce que ça nous touche directement au niveau de notre estime de soi. Pourquoi on n'a pas été capable de garder notre homme ou notre femme, puisqu'il est allé voir ailleurs? Donc quelque part, ça vient de nous, c'est de notre faute, ça ne va pas.
Donc c'est naturel?
Oui. Heureusement, parce que si vous imaginez, je t'ai trompé. C'est pas grave, vas-y, continue.
Ça n'existe pas, ça.
C'est rare.
Alors, on l'a dit, en 2022, le regard sur l'infidélité a quand même changé. On voit même des sites de rencontres spécialement conçus pour les infidèles. Et on va accueillir en ligne maintenant Solène Payet. Bonjour Solène.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice marketing d'un site de rencontres pas comme les autres, ça s'appelle Gliden. Expliquez-nous d'abord quel est le principe. Je crois que c'est assez différent de Mythic et tous les autres sites dans ce genre-là.
C'est différent sans être si différent que ça, en fait. C'est un site de rencontres, on va dire, comme les autres, sauf qu'au lieu de s'adresser à des gens qui sont célibataires et qui sont à la recherche du grand amour, faire des enfants, nous, on leur explique que même s'ils sont mariés ou en couple, en fait, ils peuvent faire des rencontres extra-conjugales. Donc, c'est vraiment un site dédié aux relations extra-conjugales.
Et je crois que ce sont deux Français qui sont à l'origine de ce réseau il y a plus de 10 ans. Comment leur est venue cette idée, justement ?
Oui, c'est ça. Gliden a été créé en 2009. Donc, c'est venu d'un constat. En fait, les fondateurs sont tombés sur une étude qui expliquait que 30% en fait, des gens qui étaient inscrits à l'époque sur des sites de rencontres étaient en fait mariés ou en couple et cherchaient une relation extra-conjugale. Donc ils se sont dit, mais c'est quand même dingue que c'était en 2001, hein, qu'il n'y ait rien en fait qui existe pour eux. Et ils se sont dit, bon, on va leur créer en fait une plateforme qui leur est dédiée, où ils auront des outils spécialisés pour les rencontres extra-conjugales, donc anonymat, sécurité.
Et oui, justement, parce que si on décide de s'inscrire sur Glidden, j'imagine que c'est justement pour rester quand même un peu incognito. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement, justement, pour le garantir, cet anonymat?
Oui, en effet, hein, si on veut être infidèle, il vaut mieux être discret. On demande une adresse email discrète. Donc on met en place aussi un album de photos discret sur le site, c'est-à-dire que quand vous créez le profil sur la plateforme, on ne va pas vous demander de mettre une photo de vous où on vous identifie. En fait, on va expliquer qu'il faut mettre une photo un petit peu discrète qui donne envie aux membres de vous découvrir sans pour autant vous donner, dévoiler votre identité complète. On a aussi, par exemple, l'application. Il y a un outil un petit peu spécial, c'est que si vous connectez sur Glidden depuis l'application, l'application de base est violette, mais par exemple, si vous êtes dans les transports en commun et que vous ne voulez pas vous faire griller, vous pouvez la mettre d'apparence bleue. Donc, on va penser que vous êtes sur un réseau social plutôt que sur Glidden. Il y a aussi, par exemple, le secouer de connecter. Par exemple, si vous secouez l'application, vous êtes directement déconnecté, vous revenez sur votre oui. écran d'accueil.
Tout est prévu, hein.
Exactement. En fait, on essaye vraiment d'avoir une plateforme où ils se sentent bien, où ils sont en sécurité et qui est discrète. Surtout, en plus, avec le Covid dernièrement et le télétravail, il a fallu s'adapter encore plus.
Bon, je vois que tout est bien prévu, en tout cas. Et vous avez beaucoup de personnes inscrites à ce jour. C'est quoi le profil, si on peut dire, des infidèles? J'imagine, je dis ça, mais c'est peut-être idiot, c'est principalement des hommes?
Non, il n'y a pas que des hommes, justement, c'est ça qui est surprenant. Glidden, de toute façon, a été une plateforme qui a été pensée pour des femmes. À l'heure actuelle, on a 9 millions de membres sur Glidden. On a à peu près 60% d'hommes pour 40% de femmes. Profil principal, donc ça va être des gens qui ont été mariés pendant plus de 5 ans, qui ont des enfants, CSP+, grande ville. Et c'est des gens qui sont là, qui n'ont pas envie de divorcer. C'est pas, on me demande souvent, mais pourquoi les gens sont sur Glidden, ils feraient mieux de divorcer s'ils sont plus heureux. C'est pas, en fait, ils n'ont pas envie de divorcer, ils sont toujours amoureux ou ils veulent rester en couple, c'est vraiment ce qui les retient. Mais par contre, il leur manque ce petit piment, il leur manque peut-être une relation un petit peu, pour leur faire sortir de la routine, leur donner envie, d'avoir une vie un petit peu plus excitante.
Mm-hmm. Eh bien, merci beaucoup, Solène, pour votre intervention.
Merci à vous.
Et donc, au cas où, pour ceux que ça intéresserait, je vais épeler le nom de l'appli dont on vient de parler, Glidden, G-L-E-E-D-E-N. Eh bien, voilà. Alors, on a beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux. Là, par exemple, Philippe nous a écrit sur Instagram. Il nous dit « Bonjour, je suis actuellement dans une nouvelle relation qui m'apporte énormément de bonheur et d'amour. Ma meilleure amie, par ailleurs, est une ex-relation et je continue à la voir de temps en temps en toute amitié. J'aimerais qu'elle rencontre ma nouvelle amie. Dois-je lui dire que c'est une ex ? »
Bah oui, pourquoi pas, puisque rien n'est ambigu.
Si ça lui pose question, c'est que c'est peut-être pas...
Ça oui, pas c'est être, ça le problème, c'est que c'est sa meilleure amie, ok, c'était une ex, mais ça reste sa meilleure amie.
Bah oui, mais on doit dire tous les gens avec qui on a couché au nouveau ou pas?
Est-ce que vraiment, on en a énormément, après, dans notre cercle d'amis, des ex?
Julien
est-ce qu'il y a que ça?
Oui, du tout.
Mais là, on parle quand même de sa meilleure amie. Donc c'est quelqu'un, il va pas s'en séparer parce qu'il va trouver quelqu'un d'autre. Non. Donc autant dire, oui.
On dit, d'accord.
On a une autre question d'Isabelle, 40 ans, sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus, enfin peu importe, je vous pose la question, bonjour. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un accord dans le couple, le fait d'informer l'autre si un jour on le trompe, du genre, si un jour Dieu m'en garde, je te trompe, veux-tu le savoir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut...
Mais oui, tous les accords sont bons. Donc après, là, on parle de l'infidélité, mais ça peut être sur plein de choses. Donc oui, si vraiment on se sent pas capable de l'accepter ou qu'on a très peur de ça, on peut se dire, si tu le fais, tu me le dis.
Ou à l'inverse, surtout si tu le fais, jamais je veux le
pour
savoir.
Pour une fois, par exemple, ça reprend, si c'est qu'une seule fois que tu ne la reverras pas, je ne veux pas le savoir.
Voilà. On a Sandra sur Instagram qui nous dit « J'ai des doutes sur mon copain, je le soupçonne d'aller voir régulièrement ailleurs. J'ai donc créé un faux profil sur les sites de rencontres pour le démasquer. » Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Le flicage, j'ai pas l'impression que ça soit super.
Non, parce qu'on dit toujours, quand on cherche, on trouve. Donc déjà, si elle a de forts doutes, c'est que peut-être il y est, et après ça va lui apporter quoi? Si c'est fliqué avec derrière, il y a des conséquences où elle sait ce qu'elle va faire, pourquoi pas? Si c'est juste pour après lui en mettre plein la figure et être désagréable et rester quand même avec, mais lui faire payer payer pendant X temps, ça sert à rien.
C'est épuisant en plus, je pense, dans le couple. Justement, il y a aussi Timothée qui témoigne sur Facebook. Il dit « Ma copine me pose des questions en permanence et m'appelle très régulièrement pour savoir ce que je fais, avec qui je suis. J'ai beau la rassurer, mais rien n'y fait. Comment faire pour qu'elle cesse de me fliquer ? On y revient encore. À partir de là, j'ai l'impression que ça tourne un peu à la paranoïa. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Oui, là, je pense que cette jeune femme ferait bien de voir un psy pour en parler, parce que là, c'est limite maladif.
Et dernière question, comment on fait pour se relever d'une infidélité ? Parce qu'évidemment, ça ne signifie pas toujours divorce ou fin du couple. Comment on fait ? Surtout quand on a des enfants et voilà, qu'on se dit qu'on ne peut pas partir.
Ça complique les choses, les enfants.
Ça complique, oui, parce qu'elle, on ne peut pas partir aussi facilement. Et franchement, j'ai envie de dire, on va ramer, de toute façon, enfin, celui qui a été infidèle. Et ça va être pouvoir prouver qu'on va redonner confiance en la personne. Ça va être plein de choses, mais ça va durer des mois, voire parfois des années. Moi, j'ai des couples, ça dure. Et
ça peut bien se terminer vraiment sur une histoire d'amour qui valait le coup de reconsolider.
Tout à fait.
Et vous disiez tout à l'heure, parfois ça rebooste, c'est vrai ça ?
C'est vrai, parce que parfois, on a un peu perdu, on est dans la routine, on a perdu ce piment qu'on a dans la vie de couple, ce qui est normal. Là, on va fauter, l'un ou l'autre, l'autre le sait, ça va nous remettre en question en disant qu'est-ce qui s'est passé, machin. Maintenant, il faut qu'on casse cette routine, mais à deux, sans aller voir ailleurs. Et ça peut être bénéfique.
Eh bien, merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je rappelle au passage le titre de votre dernier livre, La vérité sur le sexe après bébé, aux éditions Larousse.
Merci encore Caroline. On va maintenant passer à la séquence tendance de bienfaits pour vous. Il y aura d'abord Sophie Braffman et sa chronique mode. Aujourd'hui, elle va nous donner des pistes pour se vêtir de la tête aux pieds en version green ou écolo. Et ensuite, il y aura Nathalie Le Breton. Elle a repéré quelques livres pour nos enfants qui mettent les pieds dans le plat, ou plutôt les pieds au cœur d'un sujet qui fâche, les grosses colères. Mais je suis certaine que Nathalie va trouver les bons mots, plutôt les bons bouquins, pour apaiser tout ça sur Europe 1. Alors à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi en direct. À présent, on va débuter notre partie tendance, ces bons plans pour prendre encore davantage soin de vous et de vos proches. Et pour cela, elle est déjà avec nous comme tous les mercredis, c'est Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Oh, un sujet terrible aujourd'hui, douloureux pour nos, pour mes oreilles de parents. De quoi on va parler ?
Et tout en couleur, genre rouge, rouge colère, noir de rage. Ah. Et puis, je te tends la main, en fait, sur le green.
Parfait Nathalie, vous restez avec nous car avant de parler livres jeunesse et grosses colères de toutes les couleurs, on va s'intéresser à la mode avec Sophie Braffman. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie.
Alors la mode sera verte donc aujourd'hui avec vous.
Oui, aujourd'hui elle sera verte. Alors je voulais vous parler aussi des tendances SM dans la mode, mais ça je ferai ça pour la semaine prochaine. Je crois que ça allait bien avec le thème.
Avec infidélité ?
Non, alors avec infidélité, mais il y a quand même une résurgence du thème SM dans les défilés, des fois on va le voir, mais je vais vous en parler la prochaine fois. Aujourd'hui, on va parler de mode verte. Alors pourquoi j'avais très envie d'en parler ? Parce qu'évidemment ça a été un peu l'oublié de cette campagne présidentielle. Aussi l'écologie. Et on dit souvent que la mode n'est pas engagée. Eh bien, il semblerait que la filière textile s'engage, et ce, de plus en plus, pour notre plus grand bonheur. Alors, il y a un éco-organisme qui s'appelle ReFashion, qui est lui-même financé par la filière de l'habillement, et qui se développe autour de grands axes.
Alors, justement, c'est quoi les principaux axes auxquels la filière réfléchit aujourd'hui ?
Alors, on a plusieurs problématiques. Julia, tout d'abord, on a la fabrication. J'en ai déjà pas mal parlé ici. Il faut repenser cette fabrication. En fait, plus on a de sous-traitants, plus ça devient compliqué de savoir qui fabrique vos vêtements, dans quelles conditions. Donc, il faut favoriser des circuits plus courts. Ensuite, on a l'idée de transformer la consommation. Alors, on l'a déjà dit, c'est vrai que les enseignes de fast fashion, pour ne pas les citer, mais bon, il y en a quand même plein, les Zara, les H&M et consorts ou Primark, c'est très tentant. Mais en fait, l'idée de réassortir tous les 15 jours une collection, ce n'est pas possible. Vous voyez, vous avez à peine le temps d'acheter un short, vous voulez le changer, c'est déjà, c'est terminé. Autre tendance dont on a parlé et qu'il faudrait un peu abolir aussi, le unboxing. Vous vous rappelez de cette tendance qui avait été développée par Séverine sur les réseaux sociaux, les jeunes adorent sur TikTok.
Ils ouvrent les gros colis avec « j'ai acheté ça et ça, voilà. Et ça, 3 euros, 2 euros, 1 euro ».
Exactement, et en général, on est plutôt sur des labels comme Primark, Shine, donc tout ça, pareil, eh bien, il faudrait y repenser aussi et ne plus le faire. Enfin, revaloriser des déchets, c'est-à-dire donner une seconde vie à ces vêtements. Il faut arrêter absolument de les brûler, ça c'est obligatoire. Et surtout, leur donner une seconde vie. Donc, on privilégie par exemple de l'achat vintage, qui est très intéressant, on n'en a pas parlé ici avec les sites comme Vestiaire Collective ou Vinted. Et j'ai repéré aussi une initiative formidable qui va avoir lieu à Pantin au mois de mai, où les gens font du troc, du mode troc. Donc, vous venez avec vos vêtements et là, vous pouvez échanger librement.
Génial.
Voilà, exactement, puisqu'on a fabriqué tellement de vêtements. Donc, encore une fois, sur cette rubrique, je ne vais pas vous donner des marques, mais plutôt vous donner des astuces pour changer tout ça. Et enfin, il y a cette application formidable dont j'ai déjà parlé, Clear Fashion. Vous vous rappelez de ça ? Donc, il y a un UK de la mode. Et alors, eux, ils sont vraiment prêts à aller plus loin. Alors, c'est une application qui valide les vêtements selon des critères. Alors là, il y a les conditions de travail de ceux qui les ont fabriqués, la santé des travailleurs, celle des consommateurs, le bien bien-être animal. Et j'ai demandé à Rim Trabelsi, qui est la cofondatrice de Clear Fashion, comment on pouvait faire justement avancer les choses déjà du côté des consommateurs, c'est-à-dire nous.
La fast fashion, acheter des produits jetables qui sont éphémères, c'est une mauvaise idée. On achète un produit, on doit en racheter, donc ça coûte cher finalement, et c'est pas un investissement dans le temps. C'est pas des produits même d'ailleurs qu'on peut revendre facilement puisqu'en fait ils ont plus de valeur. C'est aussi faire travailler des gens dans de mauvaises conditions, c'est générer un impact. Il faut aller vers une déconsommation, vers le fait d'acheter moins mais mieux. Il vaut mieux acheter des produits de seconde main, par exemple, que acheter des produits neufs qui sont faits par la fast fashion.
Et donc Sophie, toujours plus de seconde main, ça on l'a compris, et peut-être aussi inciter les marques à davantage de transparence, c'est ça ?
Oui, exactement, et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit sur cette fast fashion, parce que c'est tentant sur le coup, mais en fait au final, comme vous allez jeter, ça va vous coûter très cher. Alors, les marques ne font peut-être pas tout bien, donc il faudrait plutôt que les inciter, les obliger à cette transparence. On écoute à nouveau Rim.
On parle de plus en plus d'éco-responsabilité chez les marques. Maintenant, on voit que le secteur évolue pas à pas, mais pas assez vite, étant donné l'urgence sociale et climatique qu'il y a. Pour que ça avance encore plus vite, il faudrait que justement il y ait des réglementations beaucoup plus strictes, notamment sur l'affichage social et environnemental, que on force les marques à savoir quels sont leurs fournisseurs. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, il faut être plus exigeant et mettre des réglementations aux marques.
Alors, les choses vont quand même dans le bon sens puisque la loi AGEC vise justement à ce qu'il y ait un affichage social et environnemental dans le secteur de la mode. Demain, les consommateurs pourront retrouver des étiquettes avec l'impact environnemental et social d'un vêtement avant de l'acheter. Donc ça, c'est vraiment une bonne initiative puisqu'on va pouvoir mieux choisir. Car finalement, selon Rim, les consommateurs, c'est-à-dire nous, on est prêts en fait à faire des efforts à condition qu'on soit informé de la plus-value de nos produits.
Moi, ce que je vois quand je fais des entretiens avec les consommateurs, on va dans les magasins, les consommateurs disent « Oui, mais acheter chez H&M, je sais que c'est pas forcément fait dans de bonnes conditions, mais si j'achetais chez telle autre marque qui coûte plus cher, je suis pas sûre que ce serait mieux, en fait, d'un point de vue des conditions sociales, etc. » Donc finalement, le fait qu'il n'y ait aucune valeur ajoutée, qu'on sache pas comment sont fabriqués les vêtements, quelle est leur valeur, leur juste valeur en fait aux vêtements, fait que les consommateurs vont aller plutôt vers les produits qui ont le plus bas prix.
Donc la bonne nouvelle, et je me tourne autour de vous, là autour de cette table, mais aux auditrices, à nous toutes, c'est qu'en fait on est prête à faire des efforts. Souvent on dit oui, mais les consommateurs veulent d'abord un prix qui n'est pas élevé.
Et prêt, hein, les garçons, ça les intéresse aussi.
Et les garçons aussi, bien sûr. Si vous savez que ce vêtement a été mieux fabriqué, que vous allez pouvoir le porter plus longtemps et que vous n'allez pas le jeter au bout d'une fois, et bien franchement vous êtes prêt à mettre le prix. Bah. Bon, un prix qui soit un peu raisonnable, bien sûr. Mais du coup, je pense que c'est très intéressant d'aller dans ce sens-là et qu'il ne faut pas se culpabiliser et culpabiliser trop les consommateurs, mais plutôt les informer. Et comme ça, on fera enfin les bons choix. Et on sera stylé tout en étant bien pour la planète. C'est pas mal, ça.
C'est beau, c'est un beau projet. Merci Sophie pour toutes ces astuces mode. Bon, maintenant qu'on est bien vêtu, on va aller affronter un truc vachement moins sympa. Mais je suis sûre que Nathalie Le Breton,
ah
vous
oui,
avez trouvé
des enfants.
Ouais, voilà, les bons mots pour en parler grâce à quelques bons bouquins. Ouais. Aujourd'hui, donc pas de green dans vos livres pour enfants, ce serait plutôt du rouge colère, des colères qui sont parfois franchement un enfer à vivre pour les parents. Des livres, s'il vous plaît.
Ouais. Vite, des livres.
D'autant plus que ces émotions, en fait, elles ont besoin de temps pour être apprivoisées par les enfants et les livres vont les accompagner sur la durée. Je voudrais commencer avec quelque chose qui est presque en train de devenir un classique qui s'appelle Les colères de Simon, un livre de Yann De Hesse. Ce sont nos amis belges qui ont sorti ce livre formidable chez Alice. Il est bien parce que vous voyez un petit gars qui se pique une colère, bien sûr, parce qu'il a été puni, pauvre chouchou, il a gribouillé sur les murs de la maison. Et là, il devient vraiment rouge de colère. Et puis, bien sûr, ça s'enchaîne parce qu'il va perdre avec ses copains au jeu de société. Oh, et voilà. Puis, ça ne va pas aller. Et
sale
on
journée,
se rend compte, c'est une sale journée. Et on se rend compte que, et tout doucement, il se transforme qu'il y a un animal qui l'accompagne. Alors, ça commence avec un bouc. Un bouc qui va nous rentrer dans la porte, dans les murs.
Oui.
Et à chaque colère, ça va un petit peu en augmentant. Et d'un seul coup, on passe au lion. Et d'un seul coup, on passe à l'alligator.
J'ai vu tous ces animaux chez moi récemment.
Hein, vous les connaissez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont de plus en plus horribles.
Ah, oui.
Et bien sûr, ils font peur. Et d'un seul coup, l'enfant se dit « Mais je deviens le maître du monde !» Avec le bouc, l'alligator, le lion et toute la compagnie. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, ça devient un dragon. Parce que trop, c'est trop. Trop de colère, c'est trop. Un dragon.
ça crache du feu, ça fait tout disparaître, ça fait peur à tout le monde et on se retrouve seul.
Ah bah oui.
Et donc ce petit Simon, bah, il se retrouve seul, isolé, dans une green prairie. Et là, il se met à réfléchir, il s'apaise et parce qu'il s'apaise, les autres vont revenir vers lui et lui dire qu'il l'apprécie davantage.
Mais
comme
ce ne sont pas des dragons, ce sont des dragons, Nathalie.
Ah, les dragons. Les dragons.
Nathalie, je crois que l'humour aussi, ça peut marcher pour leur faire passer les messages sur les colères.
Alors, vous avez toujours raison là-dessus, Mélanie. C'est vrai que je sais que vous aimez bien l'humour. Et en décalé, à ce moment-là. Allez-y, en décalé.
Oui, parce pendant la colère, crise, ça ne marche pas.
C'est juste pas la peine. Il va se trouver une colère parce que vous ne lui lisez pas
le livre.
Moi,
j'ai essayé de l'imiter une fois, de faire comme elle, de me rouler par terre, mais ça ne l'a pas fait rire du tout. Ça a augmenté le dragon.
Que... Ouais. C'est très sérieux, les colères. Alors, Le Chevalier Noir, excellent livre sorti chez Thierry Magnier, d'Antonin Louchard, que j'adore, qui a un humour de dingue. On part avec cette histoire. Avec un chevalier qui est envoyé en mission par le roi. Alors il part en mission, il est bien vêtu évidemment avec sa carapace, tous les instruments et les outils et les armes qu'il faut. Et puis on s'aperçoit que d'un seul coup, il s'énerve parce qu'il y a des canards qui passent, qui lui font de l'ombre. Il décide de canarder tous les canards. Alors après bien sûr il rencontre des brigands, on peut se dire que là le motif est assez raisonnable. Il te zigouille tous les brigands. Et après d'un seul coup il y a un moustique qui l'énerve et là il te zigouille tous les moustiques. Sauf qu'il y a effectivement, il y a un moment donné, enfin, on sort de cette histoire qui va crescendo là aussi. Et puis voilà, on se rend compte que c'est un petit garçon qui raconte cette histoire à son père. Et son père lui dit, bon d'accord, ok, ton histoire, quelle est la morale de cette histoire? Je suis sûre que vous la demandez, vous aussi. Eh bien, c'est qu'il ne faut jamais énerver le chevalier noir. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est important de le dire, c'est-à-dire que d'un point de vue cerveau, les jeunes enfants ne sont pas prêts à affronter et à apprivoiser leur colère. Il leur faut du temps. Quand un enfant arrive à accepter ce genre d'humour, c'est qu'il est en train de grandir, d'avoir un esprit critique. La bonne foi, c'est pas encore pour tout de suite. Mais on peut y réfléchir.
Il commence à piger. Alors, je vais me faire quand même l'avocat du diable, Nathalie, mais ils ont parfois raison d'être en colère. C'est petit, ils ont droit aussi de pas être contents. C'est vrai. C'est pas juste.
Quelques années avec des enfants, bien sûr, ça n'est pas juste. En général, il y a toujours une bonne raison. Et c'est vrai que ça n'est pas la raison que l'on va critiquer avec l'enfant, c'est plutôt le fait qu'il surréagisse et que finalement, il s'enferme dans un engrenage qui devient comme vous le disiez, Mélanie, un enfer pour nous. Je ferai une colère si je veux. Très très bonne série signée par Museau aux Actes Sud. Alors, c'est pas mal, Actes Sud Junior, c'est pas mal parce qu'on part aussi de situations tout à fait universelles quotidiennes dans les familles. Ces enfants se disputent, c'est dans la fratrie. Et on voit apparaître dans la tête de l'enfant sans arrêt le petit ange qui lui dit « mais calme-toi ». Et de l'autre côté, la mauvaise conscience qui lui dit « mais non, mais vas-y, mais tu vas pas t'excuser ». Et quoi encore ? Et ça bataille dans la tête de l'enfant. Donc, en fait, c'est pas mal de donner cette astuce-là parce que la prochaine colère qu'il va vous faire pourrait lui dire « mais attends, là, je sens le petit diablotin qui est en toi ». Et il va pouvoir respirer avec vous. Il faut arriver à lui faire comprendre que finalement, discuter, avoir des mots, c'est bien plus constructif et bien plus efficace.
Mais de toute façon, Nathalie, personne n'aime se faire hurler dessus, donc on ne hurle même pas avec une bonne raison. C'est une morale qui devrait se vulgariser, non ?
Oui, vulgariser. Je pense que les parents, notamment, qui s'énervent, sont très souvent des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir un accueil avec des mots, un accueil avec une écoute et qu'on a laissé dans leur colère. Et quand nous, on part nous-mêmes en bride, qu'on s'énerve et qu'on se surénerve sur l'enfant, on sait que ça ne sert à rien, mais on ne peut pas s'en empêcher. Donc, il faut faire aussi maturer notre cerveau de parent. Ça, c'est une autre affaire.
Merci. Respirer par le ventre. Moi, c'est une solution que je vous donne à tous. C'est pas
c'est
mal.
C'est fini les colères chez vous, Julia. Non, à 15 ans, ça va, ils sont
oui,
plus
mais
parfaits.
Les miennes, elles sont toujours pas terminées. J'ai 46 ans.
Allez, merci.
Le souffle. Merci,
Nathalie, pour ces conseils lecture dont nous retrouvons les références sur europe1.fr et les livres même dans les box par abonnement de votre plateforme noticeauton.fr. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Et Julia, demain, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien, demain, dans Bienfait pour vous, nous allons nous poser une question qui fascine le monde depuis la nuit des temps. Y a-t-il une vie après la mort ? Alors, pour certains médiums, la réponse est claire, mais nous verrons aussi que la science a son mot à dire. Et c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour, quel est
le programme.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On va beaucoup parler des prix, la folle hausse des prix. Par exemple, tiens, la viande, depuis janvier, plus 35% pour le prix du porc au marché de Plérin. Plus 35% depuis le début de l'année. On en parle avec vous au 39-21. Vous appelez, vous passez à l'antenne. Et puis on sera également avec Olivier Marleix, député LR Les Républicains, et avec Marie Lebec, députée La République En Marche. Voilà le programme.
Eh bien, merci beaucoup Romain. À tout de suite.
À tout de suite.